les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli.
Bonjour à tous. Nous sommes un an avant les échéances cruciales de la présidentielle qui, si elles sont garantes d'une stabilité réelle du pouvoir avec notre Constitution, interroge sur la légitimité de celle ou celui qui sera élu. Les dernières élections ont vu la victoire non pas de celui qui regroupait le plus de soutien, mais plutôt celui qui faisait l'objet de moins de rejets. Et, hélas, rien ne peut nous empêcher de croire que ce ne sera pas le cas en 2027. Un sondage récent montre que tous les candidats potentiels font l'objet d'un rejet massif de la part d'une majorité de la population. Et pourtant, peut-être l'une ou l'un d'entre eux va concentrer tous les pouvoirs pendant les 5 ans qui vont suivre cette élection, tant notre République est une forme de monarchie absolue, qui fonctionne de moins en moins. De quoi donner à moudre au moulin des commentateurs critiques de la démocratie moderne? D'aucuns diront qu'il faut abroger ce mode de scrutin direct qui convoque le peuple entier, mais qui frustre de plus en plus de monde et qui surtout produit une défiance de plus en plus grande au sein de la population. Est-ce une maladie propre à nos démocraties du XXIe siècle comme une forme de décadence irréversible ? La réponse va être négative, car l'affaire est plus complexe qu'elle n'y paraît. La preuve, cette question n'est pas nouvelle. Elle a même occupé le questionnement d'un intellectuel de la Révolution française il y a 250 ans, le mathématicien Condorcet, qui a mis à jour un paradoxe. En fonction du mode de scrutin majoritaire, proportionnel, à un tour ou deux tours, les résultats d'une élection ne sont jamais les mêmes. Du coup, il n'y a pas réellement de vérité qui ressort des urnes. Juste une hiérarchie liée au mode de scrutin. La question est philosophique et mathématique. Pour qui vote-t-on réellement ? Le paradoxe de Condorcet explique qu'on choisit dans une élection le candidat qu'on ne désire pas réellement, pour éviter celui dont on ne veut absolument pas. En l'occurrence, le candidat le moins rejeté gagne. Condorcet fut un philosophe des Lumières et un homme politique de la Révolution française. Il est né en 1743 et est mort en 1794 en pleine terreur. Mais dès 1785, il publia un traité de mathématiques où il réfléchit sur les conséquences d'un vote majoritaire lorsque plusieurs candidats se présentent à une élection. Il arriva à la conclusion que le vote de la pluralité peut très bien ne pas représenter la volonté générale à partir du moment où le candidat favori ne remporte pas la majorité des voix dès le premier tour. Je vais essayer de vous expliquer ce théorème. Imaginez un système de vote, appelé méthode Condorcet, dans lequel le vainqueur est celui qui, comparé tour à tour à tous les autres, s'avère à chaque fois être le candidat préféré. C'est-à-dire que chaque candidat est classé en fonction des autres, et on le choisit non pas parce qu'il est notre candidat, mais parce qu'on le préfère aux autres. Nous aurions un premier tour à l'image d'un Shifumi géant, qui présenterait, par exemple, 3 candidats, JB, EP et JLM. Je vous laisse mettre les noms que vous désirez derrière. Dans un sondage où on demande à un panel de 60 sympathisants de classer par ordre de préférence les 3 favoris, voilà ce qu'ils répondent. Prenez un crayon et du papier, car c'est un peu complexe à suivre. 23 votants préféreront dans l'ordre EP, JB, JLM. 17 votants préfèrent d'abord JB, ensuite JLM, puis EP. 2 votants préfèrent JB, puis EP et enfin JLM. 10 votants préfèrent JLM, EP, JB. Et 8 votants préfèrent JLM, JB et enfin EP. Dans les comparaisons majoritaires par pair, on obtient 33 personnes préfèrent EP à JB contre 27 pour JB face à EP. C'est donc EP qui gagnerait le duel éventuel au deuxième tour. 42 préfèrent JB à JLM contre 18 pour JLM face à JB. JB gagne le duel. 35 préfèrent JLM à EP. Contre 25 pour EP face à JLM. JLM gagne duel contre EP. Ce qui conduit à la contradiction interne. EP devant JB, devant JLM, devant EP. Le paradoxe de Condorcet va expliquer que, dans un vote à deux tours, ce n'est pas toujours le candidat voulu qui gagne. Dans le cas présent, au premier tour, EP gagne. Mais s'il est confronté à JLM au second tour, il perd. Le premier tour est déterminant et les sympathisants doivent donc calculer en choisissant celui qui est le plus à même de gagner dans un deuxième choix. Il y a beaucoup d'exemples historiques, mais le plus célèbre est l'élection présidentielle de 1974. Dans l'ordre, au premier tour, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chaban-Delmas avaient obtenu respectivement 43,2%, 32,6% et 15,1%. Au deuxième tour, c'est Giscard d'Estaing, pourtant arrivé en deuxième position lors du premier tour, qui est élu avec 50,81% des voix. L'histoire nous intéresse car au final, Giscard d'Estaing avait obtenu dès le premier tour le soutien d'un jeune ministre de l'Intérieur, un certain Jacques Chirac, qui était persuadé que le champion de son propre parti, Chaban-Delmas, allait perdre face à Mitterrand. Certains ont évoqué un parfum de trahison. En réalité, Jacques Chirac ne faisait qu'appliquer le théorème de Condorcet. Cruelle vie politique.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Imaginez maintenant ce scénario fiction. Édouard Philippe s'impose parmi les candidats du centre et se présente au premier tour à l'élection présidentielle face à Jordan Bardella, choisi suite à la condamnation définitive de sa tutrice. Raphaël Glucksmann, ce dernier ayant gagné la primaire du Parti Socialiste, car aucun candidat d'envergure n'a pu lui faire face. Et Jean-Luc Mélenchon, le seul qui est vraiment choisi par sa base électorale pour les représenter. Qu'arrivera-t-il ? Le futur président de la République française, celui qui aura les pleins pouvoirs, quasiment, pendant 5 ans, ne sera pas celui qui a été choisi pour son programme, parce qu'il était porteur d'un espoir et d'un projet pour la France, mais par défaut, parce que ses électeurs ont pensé que si ce n'était pas lui, ce serait pire.
They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone.
Je ne comprends pas ce taux d'abstention.
38%,
tu te rends compte, c'est énorme. En même temps, moi, je comprends. C'est pénible d'aller voter. En ce moment, tu peux tout faire de machin, de Internet, à tout en une seconde. Là, tu dois aller dans une maternelle, dire bonjour à tout le bled, faire des risettes. T'as pas envie de les voir. Tu t'habilles. Moi, j'y vais jamais en jogging. Je fais toujours un effort. On te reconnaît dessous l'isoloir avec tes mollets. Tu dois mettre le machin, l'enveloppe et tout. Et non, c'est insupportable. C'est une usine à gaz. Jean-Luc, il est pas allé cette année. Je lui ai dit, c'est ton devoir. Il m'a dit, ça me fait chier. J'ai insisté. Je lui ai dit, c'est ton devoir. Il m'a dit, ça me fait chier. Je lui ai dit, tu dois y aller. Il m'a dit, tu me fais chier. J'ai pas insisté, je suis allée toute seule.
Nous ne pouvons bien entendu pas croire que ces responsables de parti ne connaissent pas ce paradoxe et ne jouent pas avec. Ils ne cessent de le faire. Le problème, c'est qu'ils font fi de la volonté du peuple. La souveraineté du peuple est mise à mal. Je dirais même qu'elle est ignorée. Condorcet, qui travaillait à la construction de la République sous la Révolution française, n'a-t-il pas vu là un des travers les plus dangereux de ce système représentatif ? Est-ce qu'une démocratie représentative où les citoyens élisent leur chef est encore une démocratie ? Ou n'est-ce qu'une tromperie ?
Parce que c'est une saloperie de venir au pouvoir sans avoir une conviction à y appliquer.
Mais je ne serai pas le premier.
Savez-vous pourquoi je vous ai fait écrire cette fameuse lettre et pourquoi je l'ai gardée ?
Oui, je le sais, figurez-vous. Par vengeance. Pour humilier un homme que vous n'aimiez pas.
Non, pour préserver un pays que j'aime bien.
Alors pourquoi disiez-vous tout à l'heure que j'étais un gouvernant possible ? En tout cas, pas plus mal qu'un autre.
Pas plus mal qu'un autre. Décidément, vous êtes plus ambitieux pour vous que pour votre pays. Voilà tout ce que vous lui souhaitez. Un homme pas plus mal qu'un autre. Quand on a cette ambition-là, on ouvre un bazar. On ne gouverne pas une nation.
Cette question ne doit pas être détournée par les adversaires de la démocratie et de l'état de droit, ceux qui pensent qu'il s'agit d'un système faible. Mais il interroge sur la véritable stratégie des candidats. Cette stratégie est analysable de la même manière avec des mathématiques. Pour l'illustrer, prenons un exemple bientôt d'actualité. Imaginez deux marchands de glace se partageant un bout de plage à équidistance. L'un à droite, l'autre à gauche. Les deux ont le même nombre de clients, mais l'un décide de se rapprocher du centre. Il va alors grignoter les clients de son concurrent en se rapprochant de lui. Mais il va perdre les clients qui se trouvaient à l'extrémité de la plage, car il est désormais trop loin. Il doit donc trouver le point d'équilibre qui lui permettra de garder une majorité, même courte, tout en gardant un socle solide d'acheteurs. Cette analogie simple montre que les mouvements au sein de l'échiquier politique et la capacité que les candidats ont à couvrir un champ du spectre est la base du système. Mais ça se complique si tous les marchands de sable se rapprochent du centre. Ils captent à nouveau le même nombre chacun de clients. C'est ce qu'on appelle, dans la théorie des jeux, l'équilibre de Nash, énoncé par un mathématicien américain, Hotelling, en 1929. Bien entendu, dans la vie réelle, ce cas est plus complexe, car les marchands de glace proposent aussi des parfums différents et attirent leurs clients grâce à de la publicité ou un stand plus attrayant. C'est ce que fit Nicolas Sarkozy en proposant un ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale en 2007. Ou Jean-Luc Mélenchon en reprenant la phrase « Nous sommes chez nous » lors de son premier meeting de campagne, il y a quelques semaines.
Parce qu'on m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle.
Tous les candidats suivront le dilemme du marchand de glace, c'est-à-dire de couvrir la plus large partie de la plage face à ses concurrents et trouver les électeurs médians qui vont permettre de faire la bascule sans perdre son socle électoral. Certes, c'est pas très glorieux, expliqué ainsi. Mais l'inverse le serait-il réellement ? Car que proposent ceux qui s'y opposent ? Ne pas soumettre au vote le choix du responsable politique ? La dictature ? Ou alors une autre solution, prônée par Jean-Jacques Rousseau dans son très célèbre « Du contrat social » au chapitre 3 de la quatrième partie. Peu lu, il est vrai. Je vous lis. Si on fait attention que l'élection des chefs est une fonction du gouvernement et non de la souveraineté, on verra pourquoi la voie du tirage au sort est plus dans la nature de la démocratie. Car alors le choix ne dépendant d'aucune volonté humaine, il n'y a point d'application particulière qui altère l'universalité de la loi. Ce qui veut dire qu'il faudrait que nous tirions au sort parmi les candidats qui n'auraient du coup aucun programme à proposer, aucune démarche de marchand de glace, uniquement une disponibilité pendant 5 ans pour appliquer la volonté générale du peuple. Certes, il faudrait vérifier la compétence des individus, mais le système de vote actuel le permet-il réellement ?
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.
La première version de cette chronique a été rédigée et publiée dans C'est le Mag, la revue en ligne de l'ODEV, il y a 10 ans, à la veille de la primaire des Républicains. Et dans sa majeure partie, j'ai juste eu besoin de changer les noms. Et le visionnage du film, Le Président, réalisé en 1961 avec Jean Gabin et Bernard Pilier, m'a fait penser qu'il y a décidément une forme d'éternité dans toutes ces questions. Je vous donne rendez-vous en 2036 pour vérifier cette assertion. En attendant, vous pourrez écouter une rediffusion dimanche à 17h ou sur le site de Radio Pays des Roses sous forme de podcast. N'hésitez pas à réagir et à m'envoyer des questions ou des commentaires pour prolonger ce petit moment de philosophie permis par cette radio associative à but non lucratif, mais innovante et rafraîchissante. Vous pouvez y adhérer en cotisant, voire en faisant un don. car cette radio appartient à ses auditeurs. Donc, faites-la vivre. Je remercie Solène pour la technique et le montage, et je laisse le dernier mot à Jacques Gigelin.